8 mars, c'était la journée de la femme. À Perlevade, ce jour-là, le planning familial a fait un beau pied de nez à cette célébration éphémère et consensuelle en inaugurant une bibliothèque féministe. La maison des associations, qui accueille les locaux du planning familial, a fait salle comble pour l'occasion.
Si vous voulez, je peux faire une petite présentation et des locaux du planning et de la bibliothèque. Du coup, le planning, il a ouvert, ce planning-là, il a ouvert après 2 ans de préparatifs ardents, il y a 3 ans. C'est la 3e année. Du coup, on s'est installé dans ces locaux-là. Vous voyez ici ce qui était au début appelé la salle d'attente. Parce qu'au début, on a ouvert des horaires de permanence où il faut bien dire que pas grand monde venait. Donc, c'était une bonne occasion de donner plus de place à la bibliothèque. Et voilà. Donc, dès le début, il y a plein de gens qui nous ont donné des livres. Puis nous-mêmes, on a commencé à en acheter. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une collection qui nous paraît suffisante pour pouvoir vous inviter à en emprunter. Du coup, ici, il y a... Habituellement, il y a et les brochures et tous les livres qui sont à la fois des livres pour enfants, pour ados, pour adultes. Il y a à la fois des romans, des ouvrages plus qui parlent de la santé en général et bon, évidemment surtout de la santé plutôt des femmes. Du coup, il y a autant des ouvrages sur les règles, la contraception, l'avortement, l'accouchement, les grossesses, la ménopause, le VIH, les IST, le cancer du sein, voilà. Il y a aussi des ouvrages qui traitent plus vraiment de questions autour de la sexualité et de pratiques sexuelles. Il y a aussi pas mal d'ouvrages qui traitent de l'histoire et des femmes dans l'histoire, dans la grande histoire et des histoires de femmes à différentes époques qui racontent leur vie. Il y a aussi pas mal d'ouvrages sur les différents courants féministes et leurs histoires et les figures et surtout les idées qu'elles ont défendues, les actions qu'elles ont portées. Il y a aussi des ouvrages théoriques et historiques sur les homosexualités, sur les transgenres, sur la théorie queer. Ça fait une longue énumération, mais il y a aussi un rayon autour des violences et du coup les questions d'agression sexuelle, de viol, de violence conjugale. Voilà. Et bien sûr d'autodéfense. Voilà, grosso modo. Et il y a aussi tout un tas de brochures, mais que pour aujourd'hui, on a installé dans la salle d'entretien qui est juste à côté.
Si vous avez des suggestions, on peut acheter aussi pour nourrir la bibliothèque. Il ne faut pas hésiter à noter si vous avez des idées, des choses que vous trouvez. Ce serait important qu'il y ait ici. Ouais. On va voir un petit peu tous les thèmes qui sont affichés là. Et autant il y a des romans que des essais théoriques politiques sur l'histoire des féminismes, sur les violences, l'autodéfense, les BD, l'intersectionnalisme, le black feminism.
Et pas mal. Enfin, il y a un petit stock d'albums jeunesse aussi, et quelques BD et trucs comme ça aussi pour. Parce que, enfin, d'une part, nous, on s'en sert quand on fait des animations, soit pour conseiller des livres autour de la question de l'éducation non sexiste, soit des bouquins pour parler de sexualité, qui sont des supports, enfin, voilà, qui peuvent être aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre de l'éducation, etc. Et puis, comme ça fait que les enfants qui viennent ici, ils ont aussi des trucs à lire, ce qui est pas mal. Et voilà. Et sinon, peut-être pour le fonctionnement du planning en général, on a un numéro de téléphone, donc vous pouvez laisser un message ou parfois on répond pour prendre des rendez-vous si vous avez besoin ou pour poser des questions. La bibliothèque en elle-même, elle va être ouverte une fois par mois pour l'instant. Ce sera le premier mercredi du mois, de chaque mois, de 17h à 20h. Avec l'idée qu'on a choisi cet horaire-là parce qu'on se disait que c'était directement en lien avec la bibliothèque municipale qui se trouve juste à côté, en fait. Et du coup, qui ferme à cette heure-là. Donc on se disait, ça faisait un peu l'idée de se dire que c'était possible des gens qui viendraient à la bibliothèque municipale pour ensuite venir compléter ce qu'ils ont emprunté ou je sais pas, enfin venir aussi voir ce qui se passe ici. Et par ailleurs, il y a aussi l'association L'Entraide du Plateau, la ressourcerie, qui ferme aussi à 17h.
Donc c'était pareil, hein, en se disant, si, pour les gens qui ne sont pas de Perlevade, on va à Perlevade, on a plusieurs trucs à faire ce jour-là. Et vous mettre en lien les choses aussi. Après...
Il y aura... Donc, tous les ouvrages ne sont pas encore référencés. L'idée, c'est de pouvoir les mettre en ligne pour que vous puissiez aussi savoir ce qu'il y a pour venir les chercher. Si jamais il y a un ouvrage qui vous importe et que vous ne pouvez pas venir ce jour-là, vous pouvez aussi nous dire, voilà, j'aimerais bien avoir ce bouquin et le récupérer d'une manière ou d'une autre. De la même manière, il y a toute une banque de films qui ont été collectés sur les thèmes divers et variés qui sont là. Il y a énormément de films là, qui sont sur un disque dur et qui peuvent être pris... voilà, le mercredi ou pareil sur demande, et l'index aussi, il est fait, donc il sera mis sur site a priori,
ouais.
Où on va l'imprimer, on en aura un là. Donc ça c'était pour l'index. Et aussi, j'avais l'envie de faire des lectures, des arpentages, peut-être inviter voilà, des auteurs, voilà, c'est aussi l'occasion de faire.
Ça c'est comme la liste des ce qu'on trouve ici, c'est très ouvert, c'est-à-dire si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à venir nous en parler pour qu'on nourrisse. Aussi cet endroit de choses diverses et variées quoi. Et puis du coup sur le fonctionnement lui-même, là on a fait donc on a tenté une arborescence qui n'est pas celle de l'arborescence classique d'une bibliothèque, sachant que pour nous c'était évident que c'est éminemment politique en fait de choisir comment on appelle les rayons et où on met les bouquins. Donc on a essayé de faire quelque chose qui soit pas trop pourri, mais c'est vraiment un travail, je pense, qui va en plus rebouger et tout ça. On a fait des étiquettes amovibles, comme ça on sait qu'on peut, à des moments, si on se dit ah non, mais ça va pas du tout, on peut faire varier. Mais donc tout est là, il y a des grands titres et ensuite les sous-titres à chaque fois. Voilà, ouais, vous pourrez regarder de près. Pour emprunter des bouquins, s'il y a personne, ou même le faire tout seul, il y a un bouquin pour l'instant dans lequel on met son nom. Non, le titre du livre, son nom et la date de l'emprunt, éventuellement avec un contact. C'est gratuit, c'est pas anonyme, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir des papiers d'identité pour emprunter.
C'est déjà
pas mal, quoi.
Pourquoi vous avez eu envie d'ouvrir là, maintenant, une bibliothèque féministe? Parce que ça fait des années qu'il y a des groupes de réflexion de femmes, qu'il y a une pensée qui est faite là-dessus. Pourquoi maintenant lancer ça?
Je crois que c'était un peu consubstantiel à l'idée qu'on se faisait de monter un planning familial avec un local. Et de, voilà. Et justement, parce que ça fait des années qu'il y a... Il y a des théories et des histoires qui sont écrites et transmises. Ça nous paraissait essentiel qu'il y ait un endroit pour pouvoir trouver ces ressources, ces idées et les partager collectivement. Du coup, là, maintenant, c'est juste qu'on a mis 3 ans à commencer à s'en occuper. Voilà. Et à trouver des sous pour acheter des bouquins et à lancer vraiment le truc, quoi.
Les présentations étant faites, chacune et chacun ont pris le temps de parcourir les ouvrages et de soigneusement sélectionner ce qu'ils ont ramené à la maison. Pour ma part, j'ai voulu voir et tester sur un public sévère un des livres de la sélection jeunesse, Luc aime le rose.
On lit celui-là, le petit garçon qui aimait le rose. Luc découvrit vraiment la couleur du rose le jour où son papa et sa maman lui offrirent un grand sachet de feutre. Il s'installa devant une feuille blanche et quand il fit glisser le feutre rose sur le papier, il se mit à dessiner une maison rose, des arbres roses, un soleil rose, des oiseaux et des papillons roses. Tu les vois les oiseaux? Ils sont où?
Oui, c'est des oiseaux.
Paf! On l'a fini celui-là, Alec. On ramène? Tu veux qu'on le ramène? Tu veux le garder là? Moi, je te laisse là.
Bon, les tout petits, au top sur les questions de genre, pas de soucis. Par contre.
J'ai un scoop, il n'y a qu'un homme dans la bibliothèque.
Bon, d'accord, un seul, c'est un peu exagéré. Mais clairement, les hommes étaient en petite minorité.
Alors, est-ce que je peux vous demander pourquoi ça fait sens pour vous l'ouverture de cette bibliothèque féministe aujourd'hui?
Ça fait sens parce qu'on a encore besoin de beaucoup travailler sur la relation homme-femme et que ça passe aussi par le développement d'outils montrant tout ce que d'abord les femmes ont écrit et fait, et d'autre part, réfléchissant sur les relations de femmes et les problèmes spécifiques qui peuvent se poser à des femmes.
Vous, c'était des ouvrages que vous avez déjà eu à consulter auparavant, des ouvrages sur le féminisme
Disons que, question d'âge, c'est le combat pour les droits des femmes, c'est quelque chose que j'accompagne depuis très longtemps en tant qu'homme, parce que ça me semble absolument indispensable qu'il y ait une parole autonome qui se crée, et que donc c'est vrai que au fil du temps, les bouquins qui sont parus, je les ai lus ou pas lus, mais l'important, c'était pas tellement pour moi d'ailleurs ça, c'était beaucoup plus d'accompagner le mouvement et de favoriser tout ce qui peut faciliter, y compris sur les plans pratiques, parce qu'on parle d'un mouvement, on parle de droit, mais les droits, ils sont concrets. Hein. Quand on parle du droit à l'avortement, quand on parle des problèmes spécifiques qui peuvent se poser sur la santé, qui ne sont pas pris en charge ou ignorés, parce que c'est des problèmes féminins, on est là devant des questions qui sont fondamentales, qu'on n'est pas sur du politique, entre guillemets. C'est compliqué parce qu'on a toujours des espoirs, pas du désespoir, mais des espoirs que les choses aillent de mieux en mieux, évoluent dans le bon sens et tout. Il y a des réveils, puis on sent aussi qu'il y a quand même des réticences, c'est que on va dire que globalement, on peut penser que... Non, je suis obligé tout de suite, je pense tout de suite, il y a des choses. Sur l'avortement, par exemple, on est en récession, on n'est pas en progression. Alors oui, il y a peut-être des réveils, des luttes, mais il y a aussi des questions au niveau des droits qui sont très loin d'être résolues. Et puis quand on voit dans le monde, en plus, c'est vrai que la question n'est pas du tout réglée sur l'ensemble des problèmes qui peuvent être posés, quoi.
Vous êtes quelques hommes aujourd'hui, mais il y a une majorité féminine. Vous essayez d'en parler aux hommes?
Oui, de toute façon, dans le quotidien, on essaie d'en parler. Mais c'est normal que dans un planning, il y ait beaucoup de femmes. Non pas parce que ça serait un lieu féminin, mais c'est parce que c'est un lieu féministe. C'est-à-dire un lieu où les femmes s'expriment. Enfin, il faudrait qu'il y ait beaucoup de femmes partout. Et il faudrait peut-être qu'il y ait plus d'hommes ici. Mais il faut faire attention aussi parce que, il ne faut pas qu'il y ait trop de paroles d'hommes, quoi.
L'inauguration de la bibliothèque féministe s'est close sur un moment de lecture. Les membres du planning familial avaient sélectionné des morceaux de différents ouvrages que vous pourrez retrouver dans la bibliothèque.
Un extrait de Caliban et la sorcière de Silvia Federici. La principale initiative que prit l'État pour retrouver le niveau démographique désiré fut de livrer une véritable guerre aux femmes, visant clairement à briser leur contrôle sur les corps et la reproduction. Comme nous le verrons plus loin, cette guerre fut menée principalement par la chasse aux sorcières, qui diabolisa littéralement toute forme de contrôle des naissances et de sexualité non procréative, tout en accusant les femmes de sacrifier des enfants au diable. Ainsi, dès le milieu du XVIe siècle, alors que les navires portugais s'en revenaient d'Afrique avec leur première cargaison, tous les gouvernements européens commencèrent à établir les peines les plus dures contre la contraception, l'avortement et l'infanticide. Cette dernière pratique avait été traitée avec un certain laxisme au Moyen-Âge, du moins dans le cas des femmes pauvres. Mais elle fut alors transformée en crime capital et punie plus durement que la majorité des crimes masculins. Dans le Nuremberg du XVIe siècle, la peine pour infanticide maternel était la noyade. En 1580, l'année où les têtes tranchées de trois femmes coupables d'infanticide furent clouées à l'échafaud pour exposition publique, la peine fut transformée en décapitation. De nouvelles formes de surveillance furent aussi introduites pour s'assurer que les femmes enceintes n'interrompaient pas leur grossesse. En France, un édit royal de 1556 obligeait les femmes à enregistrer chaque grossesse et condamnait à mort celles dont les enfants mouraient avant le baptême suite à une grossesse dissimulée, qu'elle soit responsable ou pas du décès. De semblables dispositions furent promulguées en Angleterre et en Écosse en 1624 et en 1690. Un système d'espionnage fut aussi créé pour surveiller les mères célibataires et les priver de toute aide. Même donner refuge à une femme enceinte non mariée fut déclarée hors la loi, de peur qu'elle puisse échapper à la surveillance publique. Ceux qui leur tendaient la main étaient exposés à la vindicte publique. En conséquence, les femmes furent persécutées en masse et il y eut davantage d'exécutions de femmes pour infanticide dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles que pour tout autre crime, à l'exception de la sorcellerie, une accusation qui tournait aussi autour du meurtre d'enfants et d'autres transgressions des normes reproductives. Il est remarquable que dans le cas de l'infanticide, tout comme la sorcellerie, les dispositions limitant la responsabilité légale des femmes aient été révoquées. Les femmes faisaient ainsi leur apparition pour la première fois dans les tribunaux européens en leur nom propre, comme des adultes au regard de la loi, confrontées aux accusations de sorcellerie et de meurtre d'enfants. Ouais. Allez, la dernière, notre liste. Un texte d'Ovidie, libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. C'est l'introduction. La fellation serait le ciment du couple. La bisexualité féminine serait swag. Le sperme améliorerait l'éclat du teint. La levrette lutterait contre les lombalgies. La sodomie serait bonne pour le transit. Publicité, télévision, clips, blogs, porno, jeux vidéo, magazines, applications. Le sexe n'a jamais été aussi omniprésent dans notre environnement culturel. Nous sommes passés sans transition d'une époque où la simple évocation du sujet était totalement tabou à une ère de glorification des performances. On parle de plus en plus de cul, certes, partout, sur la place publique. Mais en parle-t-on réellement mieux ? Tout autour de nous, je ne vois qu'injonctions et représentations ultra-normées. Ah ça, c'est sûr. Nous ne manquons pas de conseils pour satisfaire notre partenaire présupposé masculin. Nous sommes inondés d'articles nous indiquant comment exceller au lit et nous rendre sexuellement intéressantes aux yeux des hommes. Mais curieusement, il est beaucoup plus rare de recevoir des encouragements à nous sentir bien dans notre culotte et libérés de tout ce qui nous oppresse et nous empêche de jouir à notre manière. Si dans la presse féminine, on nous encourage à devenir les reines de la pipe, à contrario, on ne nous invite jamais à faire un bon face-sitting. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Salope, oui, mais dans les limites du sexuellement acceptable. Suffisamment pute pour exciter le chaland, mais pas jusqu'au point d'aimer ça, il ne faut pas pousser. Remarquons également qu'on inverse que très rarement les rôles attribués à chaque genre. Si on nous explique volontiers comment limiter la douleur durant les rapports anaux, partant toujours du principe que les femmes seraient en situation de passivité, on évite toujours bien soigneusement de nous suggérer que ces mêmes rapports anaux peuvent être pratiqués sur nos partenaires masculins. En clair, on nous dit de nous enduire de lubrifiants, mais surtout pas de mettre trois doigts dans le derrière de monsieur. Comme si l'anus était genré. Alors que justement, ce qui est formidable avec cette partie de notre corps, c'est qu'elle ne l'est pas. On parle donc beaucoup de sexe, mais surtout, on n'en a jamais autant regardé. Depuis la fin des années 2000, plus de 100 milliards de pages pornographiques sont visitées chaque année sur des tubes. Ces sites X gratuits, construits sur le même modèle que Dailymotion et YouTube. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, nous avons accès à une infinité de vidéos, dont la majorité d'entre elles, mais pas la totalité, nous y reviendrons, représentent des fantasmes et des corps ultra stéréotypés, correspondant à des schémas on ne peut plus classiques de domination masculine. On va nous montrer de l'anal, des éjaculations faciales, des doubles, des triples et même des quadruples pénétrations. On va soi-disant faire exploser les derniers tabous. Sauf que, curieusement, ce sera toujours le silence radio dès qu'il sera question de choses aussi banales que faire l'amour en ayant ses règles, qui pourtant concerne la quasi-totalité des personnes nées avec un utérus, à savoir la moitié de l'humanité. Alors, avec Digli, on s'est dit que plutôt que de vous proposer un énième guide censé faire des femmes, des amantes parfaites, toujours contentes et cotées à l'argus des meufs super bonnes, on allait pour une fois leur foutre la paix. Au lieu de leur indiquer ce qu'elles sont censées faire pour avoir une libido au top, booster votre sexualité et autre jargon ultra-libéral, décliné à la sauce cul, on allait plutôt vous déculpabiliser. Qu'on allait vous transmettre la seule certitude qu'il nous reste en matière de sexe. Que nous sommes les seuls décisionnaires de ce que nous faisons de notre corps et que rien ni personne ne devrait jamais nous dicter notre conduite.
S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
La bibliothèque féministe est donc ouverte tous les premiers mercredis du mois de 17h à 20h dans les locaux du planning familial situé dans la maison des associations de Perlevade. Le planning familial, quant à lui, est joignable par téléphone au 07 87 83 22 49 07 87 83 22 49 et par mail à pf.plateau@1000vaches.net pf.plateau@1000vaches.net. Vous pouvez également les retrouver sur leur page Facebook Planning Familial du Plateau de 1000 Vaches.
Parce qu'avant, ça m'énervait beaucoup le féminisme, j'étais même un peu anti. Et puis j'ai lu deux bouquins, puis maintenant je suis à fond. Parce que je me dis qu'il ne faut pas que je lise Mein Kampf, parce que...